les podcasts de Radio Vatican.
L'île de Mindanao, au sud des Philippines, vit depuis quelques jours un violent regain de tension, marqué notamment par la décapitation d'un chef de la police locale et la capture de plusieurs otages, parmi lesquels un prêtre. Cette île majoritairement musulmane, au sud de cet archipel majoritairement catholique, connaît depuis une quarantaine d'années des troubles provoqués par une guérilla qui fut à l'origine d'obédience maoïste, avant de se diviser en une multitude de groupes de tendance islamiste, à la radicalité plus ou moins forte selon les zones et l'état du rapport de force avec le gouvernement philippin. Le président Rodrigo Duterte, au pouvoir depuis un an, avait fait du processus de paix à Mindanao une priorité de sa présidence. Longtemps maire de Davao, la principale ville de cette île, il avait su établir un lien de confiance avec plusieurs responsables de la guérilla et avait garanti à cette ville un certain apaisement dans les années 1990 et 2000. Mais aujourd'hui, le développement du djihadisme international et de l'organisation État islamique, à laquelle se sont ralliés certains groupes rebelles, déstabilise sa stratégie basée sur la connaissance des seules réalités locales. François-Xavier Bonnet, chercheur associé à l'Institut de recherche sur l'Asie du Sud-Est contemporaine, nous explique la transformation actuelle de ces mouvements.
À l'origine de ce mouvement, il y a un homme qui était un garde du corps d'un homme politique de Mindanao, musulman, et qui s'appelait Maguid. Et ce Maguid allait régulièrement avec son patron qui allait faire des affaires au Moyen-Orient, notamment en Arabie Saoudite et en Irak. Et il se trouve que parmi les clients de son patron, plus tard, plusieurs de ses clients deviendront des leaders de Daesh, en Irak en particulier. L'homme politique en question est décédé depuis. Mais ce Maguid, en fait, a gardé le réseau de son ancien patron et a été chargé par ses leaders de Daesh d'essayer d'unifier tous les groupes terroristes et de les unifier pour en faire une force presque solide, en quelque sorte, contre le gouvernement philippin. Il devait organiser des camps d'entraînement dans le sud de Mindanao, où des djihadistes aussi bien des Philippines que d'Indonésie ou de Malaisie, ou même au-delà, pourrait apprendre à fabriquer des bombes. Il avait aussi en charge le financement de ces mouvements locaux sur Mindanao. Mais au bout de 3 ans de traque de la police et de l'armée, il a été tué en janvier 2017, très récemment.
Est-ce que ces groupes font peser une menace aussi sur l'ensemble de l'archipel philippin? Est-ce que par exemple à Manille, il y a des menaces djihadistes?
Ça c'est très controversé, parce qu'en fait la police a toujours dit, depuis quelques années, que différents autres groupes se sont implantés et on projette de faire des attentats sur Manille. Mais l'armée a nié ou en tout cas minimisé la menace, sans doute pour des raisons à la fois touristiques et économiques. Mais le président Duterte a imposé la loi martiale sur Mindanao et il menace de l'imposer sur le reste des Philippines en disant que les groupes qui y sont liés à Daesh vont essayer de s'échapper de Mindanao et éventuellement venir se réfugier dans le centre des Philippines ou sur Luzon. Et donc il faudrait absolument installer la loi martiale sur l'ensemble du pays.
Rodrigo Duterte, il est au pouvoir maintenant depuis près d'un an. Quel est son bilan sur ce dossier de la lutte contre le terrorisme? Et comme vous l'avez dit, est-ce qu'il utilise aussi ce phénomène pour imposer un régime plus autoritaire?
Depuis qu'il est arrivé au pouvoir, il a en fait à la fois été ferme contre Abu Sayyaf, mais tout en laissant la porte ouverte, en disant que le gouvernement philippin pourrait négocier avec certaines factions considérées comme plus raisonnables que d'autres. Face à la faction qui a prêté allégeance à Daesh, l'armée lance des attaques très régulières. Le déclencheur pour le président Duterte, ça a été septembre 2016, l'attentat du marché de nuit à Davao, car en fait il a été maire de cette ville pendant près de 30 ans. Il considère cette ville comme étant le laboratoire de la gouvernance qu'il aimerait bien en fait imposer après au reste des Philippines. Toute sa stratégie a toujours été de négocier localement avec les différents groupes rebelles, aussi bien communistes que musulmans, afin de faire en sorte que le territoire de la ville de Davao soit pacifié, qu'il a réussi à faire en une vingtaine d'années. Que quand il y a eu cet attentat en septembre 2016, il a tout de suite expliqué que c'était pas du tout les groupes rebelles traditionnels qu'il connaissait, mais des agents extérieurs. Ça correspond à une nouvelle génération de rebelles, et une génération même de djihadistes. Et là, il est beaucoup moins au fait de cette nouvelle génération.
Un entretien réalisé par Cyprien Biette.